C'est une première dans l'histoire de cette chronique consacrée depuis près d'un an au Parc national des Pyrénées. Nous allons parler flore et nous pencher sur l'une des 200 espèces dites endémiques des Pyrénées. Endémique, c'est-à-dire que cette flore est native de nos Pyrénées et que l'on ne la trouve pas ailleurs. Son nom, l'Aster des Pyrénées. Alors à quoi ressemble-t-elle? Quel est son biotope? Pourquoi est-elle assez rare? Comment remédier à son déclin et donc contribuer à sa conservation? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec notre chroniqueur du jour, Olivier Jupille. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes chargé de mission flore au Parc national des Pyrénées. Alors, je crois que c'est important pour débuter. On peut peut-être commencer par la description de l'Aster. À quoi ressemble-t-elle?
Alors en fait, il faut imaginer l'Aster comme une pâquerette géante. Voilà, imaginez une pâquerette, hein, vous la voyez bien, avec son petit cœur jaune et puis les pétales blancs qui rayonnent à partir du centre. Eh bien, imaginez la même chose, mais bien plus grand, puisque l'Aster des Pyrénées peut atteindre jusqu'à 50, voire 80 cm. Alors, une longue tige avec des feuilles un peu triangulaires qui poussent le long de cette tige. Et au sommet, un capitule de fleurs, alors qui n'est pas blanc et jaune comme sa cousine la pâquerette, mais là qui est lilas. Lila est jaune, donc le cœur est jaune. Et puis tout autour, vous avez ce qu'on appelle des ligules, hein, les petits pétales qui sont sur le côté, qui sont eux couleur lilas. Et ensuite, c'est une plante qui va fleurir très tardivement en saison, puisque on la trouve fleurie donc plutôt à la fin de l'été, dans le courant du mois de septembre. C'est la période à laquelle elle s'épanouit et on peut avoir la chance de l'observer.
Alors, une fleur tardive, où la trouve-t-on? Est-ce qu'elle a des territoires spécifiques, la nature des sols, l'altitude?
Elle pousse en général sur des sols qui sont assez pentus, entre 30 et 70 degrés, sur des sols plutôt calcaires, pas forcément exposés ni plein nord ni plein sud, un peu entre les deux, et le plus souvent quand même sur des sols un peu frais. Un peu frais, ça veut dire qu'on peut la trouver sur les abords de certains torrents, dans ce qu'on appelle les mégaforbiers. Et puis dans des couloirs d'avalanche très herbeux qui restent donc frais plus longtemps, parce que ce sont des couloirs d'avalanche, donc la neige fond un peu plus tard.
Y a-t-il des caractéristiques quant à l'altitude où on peut la trouver également?
Oui, alors c'est une espèce qui pousse au niveau collinéen et montagnard, donc on va dire entre 800 et 1800 mètres d'altitude en moyenne.
Alors vous évoquiez des pentes fortes, des couloirs d'avalanche, des versants plutôt frais. Pour l'observation, il faut quand même se la gagner.
C'est un petit peu comme un trésor, si vous voulez, quand vous trouvez cette espèce-là, parce que c'est une espèce qui reste quand même extrêmement rare. Donc déjà, l'observer en soi est un événement. Et puis en plus, quand on voit dans quel type d'endroit elle peut pousser, hein, des couloirs d'avalanche ou quoi, c'est vrai qu'il faut pouvoir y aller. Il y a certaines stations qui sont au sein du parc national où on ne peut se rendre qu'en cordée, avec un petit peu d'escalade pour pouvoir parvenir jusqu'à certaines stations. Donc c'est vrai que c'est une espèce qui longtemps a paru très 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 rare. Aujourd'hui, avec les progrès de la connaissance, un peu moins. Et on se retrouve avec un nombre de stations qui aujourd'hui se stabilise pour le parc national, hein, je parle, hein, aux alentours de 15 stations. Donc 15 stations, ça veut dire 15 endroits où on trouve l'espèce à l'échelle du territoire du parc national. Alors ils sont très différents, hein, ces endroits. C'est des endroits où l'espèce peut être présente en un seul individu, d'autres endroits où l'espèce peut être présente à plusieurs milliers d'individus.
Alors, vous avez évoqué à plusieurs reprises la rareté, voire la fragilité de l'Aster des Pyrénées. Quelles en sont les raisons? Est-ce que c'est une cueillette ou la fermeture des milieux?
Oui, vous avez raison. Il y a plusieurs motifs qui ont concouru à sa raréfaction. Partant du principe que l'espèce était peut-être plus présente par le passé, la première mention qu'on trouve dans les traces du passé en bibliothèque, c'est 1636. On voit que de plus en plus de botanistes sont intéressés pour venir herboriser dans des endroits un peu mythiques comme les Pyrénées. Donc la botanique progressant à l'échelle nationale dans toute cette période-là, de nombreux botanistes viennent sur le terrain et font des herbiers, parce qu'à l'époque, c'est très en vogue de faire des herbiers. Donc on prélève. Et certaines stations sont très visitées, très 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 visitées, et on retrouve plusieurs planches d'herbiers provenant du même endroit. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs centaines d'individus d'Aster qui ont été prélevés dans un même endroit par des personnes à quelques années d'intervalle pour constituer des planches d'herbier qui vont ensuite circuler dans les différents muséums pour faire progresser la connaissance. Ensuite, il y a un deuxième motif. Alors tout ça se joue en synergie, hein. C'est le motif lié, comme vous l'avez dit, à la déprise. puisque c'est une espèce qui affectionne plutôt les milieux ouverts. Elle va être mise en concurrence avec des espèces de la colonisation forestière jusqu'à la forêt. Alors, elle ne peut pas vivre en forêt. Donc, ça veut dire que dès lors qu'une forêt commence à s'installer sur un versant, par d'abord des petits arbustes et puis ensuite, voilà, on connaît la dynamique naturelle, eh bien, l'espèce va être concurrencée, elle ne va pas pouvoir résister à cette concurrence, donc elle va décliner et disparaître. Et puis, il y en a un troisième, c'est que certaines de ces stations ont pu subir des travaux d'aménagement, soit de reboisement de terrains de montagne pour stabiliser les sols, éviter les chutes de pierres, les avalanches intempestives, etc., etc. Donc, on a pu accidentellement, je dirais, reboiser certains terrains qui étaient propices à la stère, elle s'y trouvait déjà, et puis aujourd'hui, le terrain où elle aurait pu se coloniser n'est plus disponible. D'autres travaux peuvent être la création de routes ou d'infrastructures particulières qui ont là aussi soit scindé des stations ou contribué à l'affaiblissement puis finalement à la disparition. Donc vous voyez donc trois motifs essentiels que sont d'une part des prélèvements anciens, des travaux malencontreux je dirais, et puis le troisième motif qui est la déprise générale du monde pastoral et la dynamique naturelle qui s'est mise en place sur la montagne.
Alors face à la raréfaction supposée ou liée ou vérifiée de la stère, hein, un plan d'action est piloté par le Conservatoire botanique national des Pyrénées de Bagnères-de-Bigorre pour assurer justement la conservation de la stère. Alors en quoi consiste ce plan et comment le parc intervient-il dans ce programme ?
C'est vrai que le Conservatoire botanique des Pyrénées Midi-Pyrénées a été mandaté pour mener un plan national d'action de conservation de l'espèce qui propose de mettre en œuvre plusieurs pistes concomitantes de manière à pouvoir pérenniser les stations dont on a connaissance et puis pourquoi pas permettre à l'espèce de s'étendre. Donc ce plan prévoit plusieurs choses. Il prévoit par exemple de l'amélioration de la connaissance parce que on connaît encore assez mal la façon dont cette espèce fonctionne, quelle est sa durée de vie, comment se reproduit-elle, est-ce qu'elle se reproduit surtout par voie végétative, est-ce qu'elle se reproduit surtout par voie sexuée, son écologie, est-ce qu'elle se retrouve aujourd'hui dans des situations qui sont accidentelles ou est-ce que ça a toujours été le cas et elle est là dans des terrains qui lui vont bien. Donc vous voyez, il y a déjà des questions qui se posent en termes d'écologie, donc il faut poursuivre la connaissance. Et puis ensuite, il y a là où elle est présente, parfois besoin de mettre en place des mesures concrètes de conservation. Alors, par exemple, il y a certains endroits où on suit des stations, par exemple comme la station de la Glacière, qui est en vallée de Cotterêts, dans le département des Hautes-Pyrénées. On a une station que le Parc National et le Conservatoire Botanique suivent depuis maintenant presque 10 ans, où on a systématiquement, ou quasi systématiquement, je dirais, une consommation de l'espèce par la faune sauvage. Donc on se rend chaque année à la même période sur le site de la glacière, et on constate que l'espèce a bien fleuri, mais que les fleurs n'y sont plus, parce qu'elles ont été consommées par la faune sauvage, en l'occurrence les isards. Alors là, la question qu'on se pose, c'est si l'espèce ne fleurit plus, il est bien évident qu'elle ne pourra pas produire de graines, et donc elle ne pourra pas, l'année suivante, progresser en termes d'effectifs, puisqu'il n'y a plus de graines. Donc là, une des actions qui est envisagée, hein, qui risque de voir le jour là, dès l'année prochaine, parce que la décision a été prise, c'est de mettre certains individus sous cloche, entre guillemets. Alors quand j'entends cloche, c'est grillagé. Vous voyez, imaginez un dôme grillagé d'environ 1 mètre de haut, 1 mètre de diamètre. Ce dôme serait apposé sur la station de quelques individus, ce qui empêcherait du coup la faune sauvage de venir grignoter les feuilles et les fleurs. Et nous pourrions peut-être, les années suivantes, espérer, enfin c'est notre objectif, voir de nouveaux individus jeunes germer et pousser donc pour venir renforcer cette station. Donc voilà le genre de préconisations qui peuvent être pris dans le cadre de ce plan national d'action. Et puis je dirais il y a aussi un volet sensibilisation, c'est-à-dire que ce que je fais là, la rigueur en vous parlant. Et qui permet peut-être de sensibiliser vos auditeurs à la question environnementale, participent aussi à ce plan national. C'est-à-dire qu'on sensibilise, alors il y a des actions qui sont dirigées envers les enfants, envers le grand public, les socioprofessionnels, les agriculteurs, etc., pour les sensibiliser à la préservation de cette espèce, de manière à ce que toutes les énergies soient mises à son service.
Olivier Jupille, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes chargé de mission flore au Parc national des Pyrénées. Merci et à bientôt.
Merci à vous.